qu'un chrétien sans joie est un triste chrétien. Et ce n'est pas une lapalissade. Particulièrement en ce jour où nous commémorons l'arrivée du Saint-Esprit sur les disciples. Et voilà qu'ils n'étaient plus seuls, plus abandonnés. Voilà qu'ils se comprenaient entre eux-mêmes, même s'ils parlaient des langues différentes, même s'ils étaient de races et de cultures différentes. La communication était rétablie, l'unité possible à cause du Saint-Esprit. Folie ! Difficile à croire que tout cela. Certes, depuis 2000 ans qu'il est venu, le monde n'a apparemment pas changé. Pourtant, nous connaissons tant de personnes qui, grâce au Saint-Esprit, ont surmonté et vécu au-delà de leur solitude, de leur souffrance. Avez-vous entendu cette semaine l'Ode à la joie de Beethoven? Des signes de communauté rétablis, des tentatives de réconciliation ont été et sont posées. Et la semaine qui vient peut en être un. En parodiant ma phrase de départ, j'aimerais dire « Des chrétiens divisés sont de tristes chrétiens ». Aujourd'hui, nous avons le privilège, parce que nous appartenons au Christ, de recevoir son esprit. La consolation et la réconciliation nous sont offertes en lui. Alors, pourquoi ne pas être des chrétiens joyeux? La joie du Saint-Esprit, tel sera le thème des prédications de ces trois cultes à Moutier, présidés par le pasteur Pierre Parot. Et l'église dans laquelle nous entrons ensemble maintenant, belle, claire, dont les voûtes romanes montent hardiment, nous incite à la recevoir.
Joie, joie, pleure de joie. C'est par ces mots qu'un homme de lettres français, Pascal exprimait sa conversion à la foi chrétienne lors d'une nuit mémorable. C'est par une explosion de joie aussi que le Nouveau Testament fait commencer l'aventure de l'Église au jour de la Pentecôte. Ce rayonnement de joie, à la base du cheminement chrétien, essayons, frères et sœurs, paroissiens de Moutier et auditeurs, de le recevoir, de nous en inspirer et d'abord de le comprendre. Ouvrons pour commencer le livre des Actes des Apôtres, cette saga des premiers croyants. Le chant de l'assemblée et du cœur soulignera que ce qui est arrivé aux disciples est le miroir de ce que Dieu nous destine. Cela a commencé tout en sourdine. Un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, Jésus leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent à la chambre où ils se tenaient d'habitude en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude, fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Du cantique 336, je vous invite à chanter les deux premières strophes.
Cantique 336, les deux premières strophes. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant.
Le récit se poursuit ainsi. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, bruit semblable à celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur faisait exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes croyants venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ?» Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant « Ils sont complètement ivres. » Je vous invite à chanter, frères et sœurs, les trois strophes du cantique 332.
Rends-toi maître de notre âme, Saint-Esprit, Esprit d'amour, que la charité l'enflamme plus ardente chaque jour. Cantique 332, strophes 1, 2 et 3.
Comme en témoigne le chapitre 13, les difficultés n'ont pas manqué. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Mais les Juifs, voyant cette foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposèrent à ce que Paul disait, en l'injuriant. Les païens, en entendant parler les apôtres, étaient remplis de joie et donnait gloire à la parole de Dieu. Celle-ci se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes et les principaux habitants de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Dernier verset du chapitre 13. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Un commentateur propose la chanson de Charles Trenet, « Il y a de la joie » comme titre aux Actes des apôtres. On les arrête, ils sont heureux. On les persécute, ils sont heureux. On les pourchasse, ils sont heureux. On les rejette de ville en ville, ils sont heureux. Sous les coups de bâton, ils continuent d'annoncer la bonne nouvelle. Impossible de les faire taire, impossible de les mater. Leur dernière parole est encore un mot de joie.
Jésus, c'est moi. Thank you.
nous nous recueillons dans la prière. Tu nous parles, Seigneur, d'hommes et de femmes dont l'existence a été transformée par la rencontre de ton évangile, d'être visités par la joie comme jamais auparavant, au milieu même des tourments et des difficultés. Permets-nous, Seigneur, nous, dont le quotidien est souvent fait de morosité, de remonter aux sources de cette joie, pour nous y abreuver, afin que nous puissions, nous aussi, en connaître les suites et les conséquences naturelles dans une transformation de tout notre être et de nos relations avec les autres. Amen. Aux sources de la joie que donne l'Esprit, voici un regard sur l'Ancien Testament, livre de Ruth, chapitre 2. Noémie avait un parent de son mari, un homme puissant et riche, dont le nom était Boaz. Ruth, la Moabite, sa belle-fille, dit à Noémie, « Laisse-moi aller dans les champs pour glaner des épis à la suite de celui qui voudra bien me le permettre. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth alla donc glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva justement qu'elle était dans une pièce de terre appartenant à Boaz. Or voilà que Boaz arrivait de Bethléem. Il dit au chef des moissonneurs, « À qui est cette jeune fille ?» Le chef des moissonneurs répondit, « C'est la jeune Moabite qui est venue avec Noémie de la campagne de Moab. Elle nous a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis le matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle se repose maintenant un peu sous la tente. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, et même ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où sont les moissonneurs dans le champ et suis-les. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Si tu as soif, tu iras boire à la cruche d'eau qu'ils auront puisée. » Alors Ruth, tombant à ses pieds et s'inclinant, lui répondit, « D'où vient cette faveur avec laquelle tu m'accueilles, moi, une étrangère ?» Boaz lui dit, « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père, ta mère, et le pays où tu es né pour venir chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de sa part. » Et le récit se termine ainsi. Boaz prit Ruth pour femme, il alla vers elle, et le Seigneur lui fit la grâce de devenir enceinte et de mettre au monde un fils. Abraham est le père de la foi et de la joie qui lui est attachée, comme le rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner comme un héritage. Il quitta son propre pays sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut dans le pays que Dieu lui avait promis, comme s'il était un étranger. Il habita sous des tentes avec Isaac et Jacob qui avaient reçu la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voici enfin le récit d'un partage peu commun dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Comme le jour commençait à baisser, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages et les fermes des environs pour y trouver de la nourriture et un logement, car nous sommes ici dans un endroit isolé. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Voudrais-tu peut-être que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde ?» Il y avait là, en effet, environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Les disciples obéirent et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, remercia Dieu pour ses aliments. Il les partagea ensuite et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et eurent assez de nourriture. On emporta 12 corbeilles pleines des morceaux qu'ils eurent en trop. Il y en a des choses déprimantes dans la vie, frères et sœurs. Et puis quand même aussi dans ce concert, quelques vraies joies qui nous sont ménagées. Ce qu'il y a de déprimant, c'est en somme l'effet de peau de chagrin que l'existence si souvent nous ménage. C'est la déprime du chômage, par exemple, pour celui qui s'échine à courir après les signatures, constatant que l'emploi est rare et reste rare et défavorable. C'est la déprime que nous cause la pensée de l'étroitesse de notre territoire helvétique, ce qui fait fleurir chez nous les initiatives dites contre l'emprise étrangère, la dernière en date parlait du bradage du sol national. Et voilà que ressurgit à propos de l'arrivée des réfugiés le slogan de sinistre mémoire « La barque est pleine ». Et c'est encore la déprime de la maladie, quand il faut vivre avec une ou plusieurs de nos facultés diminuées ou immobilisées pour un temps, parfois pour longtemps. Et la déprime du vieillissement qui restreint petit à petit notre champ d'action tandis que notre espérance de vie s'amenuise sans retour. Sans parler enfin de l'expérience du deuil quand conjoints, parents, amis, tant de relations précieuses nous sont ôtées l'une après l'autre. Oui, il est difficile de reprendre son souffle dans une atmosphère qui va toujours en se raréfiant. Heureusement, quelques joies viennent de temps en temps nous redonner un peu d'air. Pas si nombreuses que ça, d'ailleurs. Notre langue, par pudeur, hésite à parler de « joie » pour désigner n'importe quel menu plaisir. On dira plus volontiers « on a passé un bon moment, on s'est bien marré, on a eu plaisir à faire ceci ou ça ». Sagement, on réserve le terme de « joie » à une expérience plus rare, mais plus profonde. La joie, c'est quand on se découvre au bout du compte plutôt enrichi qu'appauvri par ce qu'on a vécu. Il y a ainsi de la joie quand, par exemple, des chômeurs qui se sont unis pour affronter leur situation découvrent par le contact et la formation des choses sur eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais soupçonnées auparavant. Il y a de la joie quand des étrangers nous ont aidés à voir la vie sous un angle jusqu'alors inaperçu, qui voit s'aiguiser en lui des facultés nouvelles, compensant celles dont il est privé. Il y a de la joie à pouvoir vivre sa retraite comme un nouveau départ dans la vie, de la joie encore à connaître, au fond du deuil, un soutien de l'entourage qui vous permet de retrouver le sentiment de l'avenir et un courage renouvelé pour l'affronter. Alors l'événement de Pentecôte, chers amis, il s'inscrit exactement entre ces deux ordres de réalité. L'esprit dont la venue nous est promise ambitionne précisément de triompher en nous de la déprime et de nous rendre aptes à la joie. Rappelons-nous encore une fois les premiers apôtres. La mort de Jésus avait sonné le glas de leurs premières espérances d'apporter avec lui la révolution au monde. Or, voici que de la mort de Jésus jaillissait tout à coup un message de vie et de résurrection. Confinés d'abord dans la déprime de leur chambre haute, voilà qu'ils étaient jetés sur les routes, parlant toutes les langues de la terre pour rencontrer et partager leur joie avec tous les hommes de la terre. Le récit des Actes nous montre comment ils ont été chassés de tous leurs premiers lieux de mission, la Palestine, les synagogues, les quartiers juifs des grandes villes de l'Antiquité. Qu'à cela ne tienne. À mesure qu'on les chassait, ils ne se sentaient pas confinés dans un espace toujours plus petit, mais au contraire, portés vers le champ toujours plus vaste du monde qui s'ouvrait à eux. L'Esprit, agissant en eux, travaillait à dépasser par la joie les limites qu'on voulait leur assigner. C'est cela le Saint-Esprit. C'est cette force qui travaille à reculer les limites fixées d'abord par nos esprits. Désormais, se dessinent irrésistiblement deux manières de voir les choses, deux mathématiques opposées, si j'ose dire. D'un côté, la mathématique des hommes, la mathématique de la déprime, qui voit notre assise dans la vie à la manière d'un gâteau qui s'émiette et se rétrécit, avec des parts qui deviennent toujours plus petites au fur et à mesure qu'augmente le nombre de ceux qui veulent manger après. Plus il y a de fous, moins il y a de riz. C'est la mathématique de la rareté, frères et sœurs. Pour elle, il y a forcément plus de convoiteurs que de biens disponibles. D'où notre obsession égoïste de défendre notre part du gâteau et d'influence dans cette foire d'empoigne, cette lutte de tous contre tous dans la société. D'où encore l'impossibilité pour nous d'être jamais entièrement satisfaits, parce que la peau de chagrin de la vie se rétrécit toujours, toujours, et les autres sont toujours une menace possible. Et ce que les autres nous auront laissé finalement, le temps qui passe, la maladie, la vieillesse et la mort se chargeront de nous l'ôter. Et puis, de l'autre côté, il y a la mathématique de Dieu, la mathématique du Saint-Esprit et de la joie. La meilleure image en est la multiplication des pains. Jésus qui distribue la mince quantité de vivres et voilà que tout le monde est rassasié, qu'il y a encore des restes. Ici, le proverbe est bien « plus on est fou, plus on rit ». On peut l'appeler, si on veut, la mathématique du partage. Elle nous rappelle, entre autres, cette évidence. Si la faim existe dans le monde, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez à manger. Au contraire, on le sait, les réserves mondiales nous donnent même de la marge. C'est parce que nous vivons à tous les niveaux crispés sur notre part du gâteau rétrécissant, plutôt que de regarder les choses dans la dynamique du partage. La mathématique de Dieu, elle ne nie pas que les êtres, les choses et le monde lui-même ont des limites et une fin. Mais elle nous rappelle qu'ils recèlent dans leur profondeur des possibilités inouïes qui restent inemployées parce que nous n'avons pas la foi nécessaire pour les découvrir. Rien ne nous empêche pourtant de commencer de faire le pas. Écoutons cette parabole racontée par le dissident russe Alexandre Zinoviev. « Je vais te raconter une parabole, dit le bavard. J'ai été pris à l'armée encore avant la guerre. On arrive au régiment, on nous amène à l'ordinaire. » On nous dispose à 8 par table. On nous apporte une miche de pain. Un gars d'allure intellectuelle se charge de la partager. Voici comment il la partagea. Il commença par couper un gros morceau, un autre un peu moins grand, les autres n'importe comment. Il planta son couteau dans le morceau le plus gros, cria « Prêt, partez !» tendit le deuxième morceau à un costaud qui l'avait pris sous sa protection. Ce fut pour moi un des moments les plus importants de ma vie. Ou bien, je me pliais aux lois générales de l'être social et j'essayais de m'emparer du plus gros morceau possible. Ou bien, j'allais à l'encontre de ces lois, c'est-à-dire que je ne participais pas à la lutte. En l'espace d'une fraction de seconde, toute mon expérience de la vie fut mise à contribution. Je pris le morceau le plus petit, le seul resté sur la table. Cette fraction de seconde fut décisive pour toute ma vie ultérieure. Je m'étais forcé à rester en dehors de la lutte. Essayez donc une fois. Rien qu'une fois, comme cet homme, de changer de mathématiques. Renoncez une fois à lutter égoïstement pour votre part du gâteau. Quittez une fois cette foire d'empoigne où l'on se dispute le magot. Et donnez ainsi sa chance au Saint-Esprit. Gageons qu'il ne vous lâchera pas et que la plus petite part que vous aurez prise ou la part que vous aurez partagée se révélera source de joie, infiniment plus riche que vous ne l'aviez d'abord pensé. Faites confiance à Dieu et son esprit vous rendra votre renoncement au centuple en le faisant devenir source de joie pour vous. Voyez Boaz, le parent de la veuve Noémie. L'étrangère venue glaner des épis dans ses champs, il aurait pu la chasser dans l'idée qu'elle contribuait à diminuer le rendement à l'hectare. Non, il l'a accueillie et lui a fait large place, au point qu'elle a pu prétendre entrer dans sa famille comme légitime épouse. Faites le compte de ce qu'il a perdu et gagné. Voyez Abraham, l'homme assez confiant, pour préférer au bon tien de la terre de ses ancêtres, le deux tu l'auras de la terre promise, et qui a vécu un enrichissement constant, sans jamais devenir le propriétaire d'une terre. Et voyez pour terminer, cette femme de notre temps. Dans une localité, un Tunisien débarque à 9h du soir. Il a en poche son contrat d'embauche pour le lendemain. Aucun hôtel n'accepte de le prendre. Finalement, il ne trouve dans le village qu'une seule personne pour lui louer une chambre. C'est une vieille femme, une Espagnole. Dans le voisinage, quelques-uns admirent, d'autres critiquent. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» lui demande-t-on. « J'ai pensé devant Dieu, » dit-elle. « Moi aussi, je suis arrivée étrangère, j'ai été accueillie. Lui aussi arrive étranger. Personne n'en veut. C'est à moi de l'accueillir. » « Bien, dira-t-on, elle n'a pas été ingrate et a fait son devoir. Mais ce qui m'intéresse le plus dans son comportement, c'est le pari de la foi qui peut s'y attacher. Le pari qu'elle y a gagné bien plus qu'elle n'y a perdu. Et qu'au minimum, elle aura plus appris sur la Tunisie et sur un coin d'humanité au cours de cette soirée que tous ceux qui, dans leur peur d'être dérangés, sont restés à s'abrutir l'esprit comme les autres soirs devant quelques feuilletons insipides venus d'outre-Atlantique. Non, frères et sœurs, le bâton n'est pas encore plein et le gâteau pas encore mangé. La présence parmi nous de nos frères étrangers est un excellent test de notre perméabilité à la joie que donne le Saint-Esprit. Plutôt que d'être des fils de la déprime, si nous choisissons de devenir des disciples de la joie, nous préférerons l'aventure de l'accueil et de la rencontre de l'étranger au fait de rester barricadés dans nos frontières rétrécissantes. De même, nous ne laisserons pas la maladie ou le deuil ou les situations fausses, bref, les pressions du passé, dominer sur nous. Mais nous marcherons confiants vers l'avenir, sur des richesses qu'il recèle, cachées sous la souffrance, si vraiment nous voulons devenir des disciples de la joie que donne l'Esprit. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le monde, frères et sœurs? Un gâteau trop petit avec trop peu de biens, trop peu de travail et trop de gens après? Ou bien une moisson si grande où il y a peu d'ouvriers? Puisse le Saint-Esprit nous aider à faire le bon choix. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, nous vivons encore crispés sur nos avoirs et obsédés par nos limites, de sorte que nous contribuons à la souffrance de ceux qui vivent près ou loin de nous, dans le dénuement ou le délaissement. Que ton esprit, Seigneur, nous élargisse le cœur et nous enseigne la dynamique du partage. Seigneur, nous vivons comme en sursis, protégeant frileusement notre santé, notre vigueur, nos forces et notre vie qui ne dureront pas toujours, tristement satisfaits à la pensée qu'il y en a de plus malheureux que nous. Que ton esprit, Seigneur, nous élargisse la vue et nous aide à rencontrer nos semblables, les malades, les personnes âgées, les endeuillés. Seigneur, nous côtoyons nos frères étrangers avec une réticence qui empêche l'établissement d'un contact et cache parfois de dangereux sentiments. Que ton esprit, Seigneur, nous élargisse l'intelligence et nous rende capables d'une meilleure approche de nos frères étrangers. En tout cela, Seigneur, nous t'en prions, assiste l'Église dans son témoignage de la venue de l'Esprit dans le monde contemporain. Toutes nos demandes, nous les résumons à travers le chant du cœur dans la prière de tes enfants. Amen. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Soyons aussi en paix les uns avec les autres. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, toi qui as le propos de libérer l'homme de tout esclavage pour le conduire à la joie véritable. Tu nous as donné Jésus, preuve de ton amour et témoin de ta volonté. Tu nous accompagnes par ton esprit. C'est pourquoi, avec ton Église répandue sur toute la terre, avec les croyants qui nous ont précédés, avec tous ceux qui ont su entendre ta voix, nous voulons par le chant proclamer ton nom. Amen.
Amen.
L'Évangile le rapporte. Quand est venu pour lui le jour d'étendre les bras sur la croix, le Christ, prenant du pain et du vin, a dit à ses amis, « Voici mon corps, voici mon sang. Prenez, mangez et buvez. Pour que ma vie ressuscite dans vos vies, faites ceci en mémoire de moi. » Nous prions, à la table où tu te donnes, Seigneur, tu invites tous les hommes, les pécheurs et les meilleurs. Au cœur de nos doutes et de nos découragements, que ton esprit nous fortifie et nous enseigne la vraie fraternité en Christ. Amen.
Restons en communion avec la communauté paroissiale de Moutier, où nous venons de vivre le culte de la Pentecôte 1984, dans la perspective de la Pentecôte quotidienne qui nous y a été offerte. Le chœur paroissial a chanté sous la direction de Pierre von Gunten, à l'orgue se trouvait Bertrand Kissling, et c'est le pasteur Pierre Parot qui a présidé ce culte et en a assuré la prédication, comme il le fera ces deux prochains dimanches. Les textes des trois prédications du pasteur Parot, réunis en un seul cahier, seront à votre disposition si vous en faites la demande à l'adresse habituelle des émissions protestantes, Maison de la Radio, 1211, Genève 8. Et maintenant, attention, auditeurs du culte protestant. Voici une annonce importante. Dimanche prochain, 17 juin, pour permettre une transmission.